Et tout de suite, donc on poursuit avec le deuxième film de cette soirée. On est toujours avec toi, Léa, et puis bonsoir, Maë. On va parler de Paradis d'Andrzej Konchalovski, le vétéran du cinéma russe, qui donc dans ce film nous montre, comme tu le disais, Occitane, en introduction, trois personnages. Le personnage de Jules, père de famille, inspecteur de police et donc collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis on a Olga, une aristocrate russe qui va être déportée pour avoir aidé à cacher des enfants juifs. Et Helmut, un jeune officier allemand, issu lui aussi de la grande noblesse allemande, et qui est traversé par tous les idéaux de l'Übermensch et de la création d'un grand paradis allemand, le mot est prononcé. Alors avant d'aller beaucoup plus loin, je vais vous demander votre avis, Léa Maë, sur ce film.
Ah, j'ai adoré.
D'accord. Et Maë, même si tu parais que tu as vécu d'autres émois cinématographiques depuis.
J'ai aussi adoré, même si c'est bon. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Ben, je crois qu'on est trois. Hein. C'est vraiment un film absolument magnifique. On reviendra dessus formellement, mais aussi sur le propos qui tient. C'est un film qui a quelque chose d'austère, mais qui recèle une beauté assez incroyable. Enfin, il y a quelque chose de vraiment foudroyant aussi dans la façon dont c'est filmé, dans ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, on peut peut-être commencer par cette forme, parce que c'est quand même un film qui est très très formel dans sa démarche. C'est un film qui est en noir et blanc, qui suit un format 4 tiers très très épuré. On a des plans fixes, hein, presque exclusivement. Je ne crois pas me souvenir d'un seul vrai mouvement de caméra. Malgré tout, ça reste pas une succession de tableaux. Enfin, je veux dire, il y a quand même un montage assez alerte, mais quelque chose d'une caméra qui se pose sur les scènes par petites touches et quelque chose d'une grande douceur dans cette forme. D'autant plus que dans le traitement des camps de concentration, il y a quand même tout un historique un petit peu lourd, mais aussi au niveau du traitement, et le fameux travelling abject de Capot, coucou Jacques Rivette. Il y a l'espèce de crise qu'il y a pu y avoir avec la liste de Schindler, et pas mal de critiques, et c'est un peu aussi la réflexion qu'on se faisait en sortant de la salle, rapproche justement le traitement qui est fait de ce que faisait Laszlo Némès avec le fils de Saul il y a 2 ans, qu'on avait chroniqué ici et beaucoup adoré à l'époque. Il y a quelque chose d'un refus du spectacle dans la façon dont les choses sont montrées, qui justement est contraire à ces grands scandales qu'il y a eu un peu dans le traitement de ces événements au cinéma. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le premier élément vraiment touchant, c'est justement le fait qu'on s'approche des choses, mais sans jamais être dans une dynamique spectaculaire. Et juste dans une... Vraiment, on se pose sur eux, on a envie de dire un petit peu comme cette lumière qui englobe un peu tout et on voit.
Il y a quelque chose de très intimiste, oui, notamment avec, bah, comme ça commence, on est vraiment entre quatre yeux, il y a nous et le personnage qui s'adresse, on a l'impression, juste à nous, même si bon, on comprendra rapidement que c'est pas vraiment à nous qu'il s'adresse, mais voilà, on est dans une pièce fermée, il n'y a rien d'autre à voir que ce personnage qui nous parle, et c'est vrai que ça nous fait rentrer dans quelque chose de calme, et en même temps, ça nous fait vraiment rentrer dans le film.
Oui, c'est le choix de s'intéresser à des parcours individuels. Et donc il y a trois, quatre individus dans ce film. Et un vrai choix d'humilité, en fait. C'est le renoncement à l'objectivité, enfin à la pseudo-objectivité qui devenait une sorte de spectaculaire, en fait, de ces autres films sur la Shoah. Avec une narration qui choisit l'approche par la réminiscence. Et il y a une vraie réflexion sur l'histoire, en fait, qui se tisse, je trouve, parce qu'on a plusieurs temps, trois temps surtout. Il y a le temps de leur mort, donc c'est un espèce de non-temps, le temps de Saint-Pierre, le temps du paradis.
Oui, voilà, parce que pour expliciter ce que tu disais, Maë, vraiment le personnage est à une table et nous parle comme si on venait de lui demander de raconter ce qui l'avait amené là, et on comprend très bien que ces personnages sont justement aux portes de ce paradis. On reviendra sur la position assez délicate dans laquelle ça nous met en tant que spectateur, mais il y a vraiment ce temps qui est un non-temps, comme tu le dis, oui.
Et puis après, on a d'autres temps, donc le temps de la rafle, et un autre temps, c'est, je crois, mon préféré, c'est ce qui était avant. Donc là, on a tous, ça fait émerger des vieilles strates d'une espèce d'aristocratie allemande en déliquescence qui sont dans un espèce de nihilisme, qui trouvent plus de but et qui est assez bien porté par un personnage qui est secondaire mais qui devient un personnage important du film, s'adresse comme ça un espèce de portrait. Il y a toutes ces strates qui se mélangent. Et donc, renoncer à en faire un espèce de grand portrait, mais on a une sorte d'archéologie par petites touches. C'est très, très beau.
Oui. Quelque chose qui se retrouvait chez Nemes, là aussi, c'était le fait que l'horreur étant anodine dans les camps, on ne s'attarde jamais sur elle. Et simplement, on la montre en passant. Il y a une scène terrible où une vieille femme meurt et d'un coup, en quelques secondes, elle est dépouillée de tous ses vêtements et on passe à autre chose. Parce que, dans les faits, en effet, on passe à autre chose. Et cette volonté de ne pas s'attacher à l'horreur, justement pour la rendre encore plus insupportable parce qu'anodine, il y a une scène où un personnage raconte la sensation de la terre qui bouge sous ses pieds lorsqu'il y a encore des gens vivants qui sont enterrés. Enfin, des choses vraiment insupportables comme ça. Et l'insupportable est redoublé de cette humilité qui consiste à ne pas en faire un spectacle, justement. Je pense aussi à ces scènes d'une ironie terrible où le directeur du camp se félicite de la rentabilité de son camp, des rendements qu'il a réussi à obtenir et part dans un grand éclat de rire. En fait, c'est beaucoup plus glaçant que toutes les tentatives de nous montrer un opéra grandiose et macabre qui deviendrait grotesque un petit peu.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment, comme tu disais Léa, une volonté d'une réflexion historique justement sur cette histoire-là, avec quand même, on voit bien les trois personnages qui représentent quand même trois types d'acteurs de cette Seconde Guerre mondiale, avec le SS héritier d'une grande aristocratie allemande, avec aussi le policier français qui collabore mais qui n'aime pas les Allemands, mais qui collabore quand même. Enfin, on voit ici l'ambiguïté de sa position, et enfin la résistante russe qui résiste et qui aussi finit victime dans les camps. Donc ne serait-ce qu'avec ces trois personnages, on sent le regard historique qu'on porte, et je pense que peut-être que cette volonté justement de montrer deux choses déjà, cette volonté de montrer l'horreur mais sans s'y attarder, c'est peut-être aussi qu'on est à la recherche d'un certain regard d'historien presque, c'est-à-dire on dit les faits mais on n'entre pas dans le pathos, c'est pas notre but. Et la deuxième chose, c'est cette forme où justement les personnages vont se confesser comme si c'était à l'entrée du paradis. Ça donne l'impression que ce sont des témoignages, comme si on avait pu recueillir des témoignages directs de l'histoire, et ce sont en fait des sources historiques presque, c'est au spectateur d'analyser. Et du coup, je pense que tout ça, effectivement, ça amène une vraie réflexion historique sur cette période.
Oui, et au-delà de cette réflexion historique qui est vraiment évidente, qui est manifeste et qui est menée avec finesse, on a tout un second niveau de lecture qui est porté déjà par le titre du film, qui atteint un stade un peu plus métaphysique, on va dire, on peut même y aller carrément, parce que toute la question se pose de la création du paradis. C'est quand même ce que cherchent à leur façon ces personnages. On a, alors évidemment, la phrase est prononcée plusieurs fois, il s'agit de créer un paradis pour les Allemands. Mais est-ce que finalement le collabo est pas aussi en train de sauver son petit paradis personnel, ses petites promenades dans la forêt avec son fils? C'est une question qui se pose vraiment, et la phrase tombe au milieu du film un peu comme un couperet. Il n'y a pas de paradis sans enfer, et c'est le personnage du directeur du camp qui le dit, et cet enfer, je l'ai créé.
Même avant que le personnage du directeur du camp le dise, on entend une prisonnière qui récite les vers de Dante du début de l'enfer de la Divine Comédie, et ça aussi, forcément, c'est un clin d'œil. C'est la chiate ogni speranza voi che entrate. Et là, oui, ouais. on pose la question.
Et on se retrouve vraiment face à... du coup, cette tentative complètement aveugle de créer un paradis et de personnages qui ne réussissent à créer que l'enfer, alors à une exception finale près, sur laquelle on pourra peut-être revenir sans trop en dévoiler non plus. Et à côté de ça, on a une lucidité des personnages secondaires, mais qui est là pour un petit peu en contrepoint. Mais vraiment, les personnages principaux, je trouve que ce qui prévaut dans leur attitude, c'est l'aveuglement. C'est le fait qu'ils sont... qu'ils sont dans cette lumière dont le film est inondé, et que de fait, ils ne voient pas qu'ils sont en train de créer l'horreur. Et c'est les moments où l'horreur apparaît justement qui font basculer le film petit à petit. Ce moment où l'officier nazi voit un de ses amis qui commence à douter, à sombrer un petit peu dans le mélange d'alcoolisme et de folie. Cet ami avec qui, c'est des gens cultivés, il lisait Tchekhov, ça revient régulièrement, toute cette culture. Et ce moment où d'un coup l'enfer apparaît au milieu du paradis qui est censé être en gestation, ça crée des moments extrêmement forts dans ce film qui le scandent un petit peu.
Même s'il y a quand même des moments d'ambiguïté, notamment chez le personnage du SS, qui dès le début pose justement les indices qui montrent que le personnage va vite se rendre compte qu'il ne s'agit pas du paradis. Même au moment où il est censé être encore dans son illusion et ne pas voir l'enfer qu'il est en train de construire, il y a quelques indices qui nous permettent de montrer qu'au fond, peut-être qu'il est sans doute un peu...
Oui, quand la fenêtre s'ouvre et qu'il sent l'odeur des camps, il sent presque
même quand même bien avant
fermée,
ça, quand il est pris de nausées devant Himmler, quand dans le bois.
Une scène dans la forêt, voilà. Une scène magnifique dans la forêt de ce personnage qui s'arrête tout simplement parce que pris d'une envie pressante, il arrête sa voiture et il va dans la forêt. Et là, il se retrouve pris dans une brume splendide et semble apercevoir des formes mouvantes autour de lui et qui cinématographiquement est vraiment vraiment splendide, enfin, y a pas d'autre mot. Et du coup, face à ce paradis, eh bien, il faut bien savoir qui va y accéder ou pas, en tout cas au paradis, au vrai. Qui est juge? Nous. Et ça, c'est terrible.
Très ambigu, très, très étrange, mais intéressant par rapport à l'histoire, encore une fois. Qui on est pour regarder ça? Qu'est-ce qu'on est censé se dire? Enfin, c'est troublant.
C'est troublant, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que oui, on se retrouve dans la position de Saint-Pierre.
Oui.
Enfin, moi, ça m'a frappé dès le départ. Hein. Je voyais ce personnage se confesser et on est en train de juger la prétention au paradis de tous ceux qui nous ont précédés, quelque part. C'est assez terrible. Et au dernier moment, le cinéaste a l'intelligence de nous remettre à notre place de spectateur, de nous ôter cette prétention-là aussi. Par un dernier geste cinématographique et un dernier geste, y compris dans l'histoire elle-même, un dernier geste de ce personnage de résistante qui soudain parvient, par une espèce de sacrifice ultime et de geste magnifique, à le créer, ce paradis. Dans une dernière scène qui est vraiment magnifique, alors qu'on va pas vous dévoiler, mais qui parvient à atteindre une espèce de stade de sublime qui réussit à ne pas être... À ne pas être quelque chose d'odieux par rapport à tout ce qui a précédé dans le film. Enfin, là encore, c'est vraiment la délicatesse qui prévaut jusqu'à la fin. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment parfaitement maîtrisé du début à la fin et que c'est un très très grand film, tant sur le plan historique que sur le message qu'il essaye de faire passer.
D'une grande finesse.
Assez d'accord.
Donc on peut que vous conseiller d'aller le voir, chères auditrices, chers auditeurs. Il passe encore cette semaine au petit cinéma, le cinéma Impasse Saint-Polycarpe dans le premier. On y a été l'autre soir et puis rien que d'aller à ce cinéma, c'est toute une expérience. Alors ne vous privez pas.